Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On peut voir quand on marche un peu dans l'herbe. On voit pas la terre ici. Après, à côté, dans le rang d'à côté, on voit la terre a été légèrement travaillée en surface pour pouvoir faire des semis. Des semis de plantes très, très diversifiées, de manière à faire à renouveler un peu les couverts végétaux et apporter de la diversité. Voilà. Donc le domaine, ici on est sur un îlot de 8 hectares, 8 hectares de vignes et qui ont été plantées il y a bientôt 20 ans. Et avec que du merlot, et on est planté à forte densité. On est il y a 6600 pieds hectares, ce qui est pas mal pour du Bordeaux, parce qu'on est juste dans l'appellation Bordeaux supérieur. On va approcher de la haie, du premier alignement, je veux dire, qu'on a planté donc en 2008, avec l'objectif uniquement à ce moment-là d'avoir des fruits pour les enfants. Voilà. Là, on connaissait pas du tout le terme agroforesterie à ce moment-là, et c'est suite à une table ronde que nous avons fait avec des naturalistes de différentes associations que la décision de planter des arbres est devenu, a pris tout son sens, et on a en 2014 commencé à planter de nombreux arbres. 2014-2015, on a planté 160 arbres. Deux solutions, soit on densifie encore, on met un arbre entre deux pieds de vigne, ou on arrache un pied de vigne et on met un arbre à la place. Voilà, donc quelque part, si vous mettez 80 à 100 arbres par hectare, vous allez perdre donc une petite centaine de pieds sur 6600. Voilà, c'est pas très grave, et ça va pas changer forcément les rendements de manière significative. On a été sujet d'études pendant 3 ans ensuite avec l'INRA, l'Institut français de la vigne, le Centre d'études spatiales de la biosphère, Sciences Agro à Bordeaux, et suite à cette étude, on s'est dit qu'on n'avait pas suffisamment d'arbres encore. Et donc aujourd'hui, on est à 570 arbres sur les 8 hectares. Ça, ce sont les arbres les plus anciens, voilà, qui ont été plantés en 2008, ceux-là. Voilà.
Ils ont déjà 12 ans.
Ils ont déjà 12 ans, mais ça n'a pas été une très grande réussite au niveau plantation, puisque j'ai des erreurs agronomiques. Et donc ça m'a permis d'apprendre et de faire différemment. Et maintenant, les autres plantations vont beaucoup mieux que celle-ci. Et puis bon, après, oui, il y a eu quelques petites erreurs de jeunesse. Voilà.
Quand vous avez planté ces arbres-là, quels résultats apparaissent? Rapidement ou pas rapidement d'ailleurs, qu'est-ce que vous voyez en fait?
Mais il faut attendre de toutes les manières, il faut être patient. C'est là, ça fait partie des priorités. On peut pas, c'est incontournable le temps que l'arbre pousse. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est par exemple les chauves-souris qui remontent les allées d'arbres. On les voit circuler le long des allées, beaucoup plus qu'en milieu de parcelle. Et ensuite, on voit aussi la vigne qui change un petit peu son comportement. Elle a un développement vraiment différent, ça faut venir le voir. Du moment où le rameau attrape une branche, elle pousse mais de manière à une vitesse impressionnante pour atteindre le sommet de l'arbre, alors que les pieds d'à côté sont restés au même point. Ils ont peut-être poussé de 30-40 cm, mais tandis que l'autre aura poussé de 2 ou 3 mètres. Là, voilà.
Ah oui, la croissance...
C'est incroyable, ouais, vraiment. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire par tout temps. C'est-à-dire que là, il est tombé 50 mm cette nuit. Et ça marche très bien. Alors qu'avec un tracteur et un outil derrière, ça existe pour faire ça. Mais là, vous ne pourriez pas le faire. Hein, et vous feriez du mauvais travail. Bon, c'est un petit peu physique, mais ça réchauffe tout de suite. Hein. Là, on prépare les sols pour soit pour planter les arbres, soit pour complanter les pieds de vigne qui manquent. Et donc, on travaille à la grelinette. C'est un outil avec des dents. Et on vient juste soulever le sol pour l'aérer. Et au printemps, on pourra revenir planter là-dedans avec une grande facilité. Le jour où on a décidé que l'arbre était un élément indispensable dans la culture, dire banco, j'y vais parce que je connais les conséquences que ça va avoir sur mon travail. Et c'est pas insurmontable, donc allons-y.
C'est-à-dire ?
Tout ce qui est matériel qui enjambe le rang de vigne, ça c'est bien sûr, on oublie. Hein. Du moment où l'arbre est inséré dans le rang de vigne, hein. c'est mon cas. Après, voilà, il faut trouver des techniques de palissage, de traitement, et de récolte, hein, bien sûr. Là, par contre, la récolte, vous ne pouvez que revenir à la main. Il hein. n'y a pas de solution, mais en même temps, ça me permet de faire des petites cuvées. C'est vinifié à part et ça a tout son intérêt commercialement. Et donc là, le fait d'introduire tous ces arbres, et donc en sachant qu'on a à peu près 3/4 de fruitiers, eh bien on a une nouvelle production qui est en train de se mettre en place de fruits, et ça sera toujours un complément à la vigne, et un complément à la vigne, et en même temps disons, une diversification œnotouristique aussi, puisque les gens sont très sensibles à l'arbre et à ce que nous faisons.
Vos bouteilles, elles coûtent combien?
Nos bouteilles, elles coûtent 10 euros.
Chez un caviste
pour Chez le caviste, oui, tout à fait. Entre 9 et 12.
C'est hyper raisonnable.
Ah, si aujourd'hui je vendais toute ma production à 10 euros, il n'y a pas de problème, je vais vivre correctement. Et j'arriverai à développer encore plus mon activité d'agroforesterie et tout le reste. Donc non, à 10 euros, c'est le bon prix d'une bouteille, quelle qu'elle soit. Donc quand vous achetez des bouteilles à 90 euros, c'est bien pour les actionnaires du vignoble. donc non, mais 10 euros, c'est vraiment le bon prix pour une bouteille de vin équitable et qui permet de développer une autre agriculture.
Ici.
Cette aventure, elle a vraiment commencé avec Benoît. C'est lui le vigneron. Moi, je ne suis que la femme du vigneron. Et vous pouvez me croire, ça travaille, une famille de vignerons. C'est très présent. Donc Benoît, lui, il a déjà grandi sur une ferme en bio depuis les années 1976. Ils étaient en biodynamie depuis les années 88. Donc il avait déjà tout un bagage de sensibilisation à l'environnement, à d'autres méthodes de production. Mais vraiment, je l'ai entendu parler, dire « mais oui, mais la vigne, ça reste une monoculture. J'ai entendu parler d'agroforesterie, il y a des chauves-souris, je sais qu'elles peuvent jouer un rôle aussi. Comment on pourrait un peu penser les choses autrement ?» La sensibilité des paysans et le bon sens des paysans. Voilà. Et donc, je me suis emparée de cette idée de dire « oui, les arbres, les chauves-souris », et j'ai fait mes recherches sur Internet. Et ça m'a renvoyée à des associations de naturalistes. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ça a été de se dire, ben, restons à notre place, soyons dans l'humilité, en disant, ben, on peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir, et adressons-nous à ceux qui savent et qui pourront nous aiguiller sur des projets, des actions hyper efficaces et pertinentes, pour éviter aussi de partir dans des utopies. Parce qu'on peut se dire, oh, ah ouais, on devrait faire ça, ça va être super ça. Et puis en fait, parfois, c'est arrivé une fois avec le spécialiste des chauves-souris, je dis, oh mais Yannick, on pourrait faire ça, ce serait génial. Et il me dit, ouais, c'est une bonne idée, mais au niveau environnement, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, c'est... Donc c'est vrai qu'être entouré de gens dont c'est vraiment la spécialité, c'est éviter aussi de glisser sur des préjugés qui sont des utopies. Voilà. Et nous, on voulait vraiment rester dans quelque chose de très efficace, de très concret, même si on est dans cette idée d'expérimentation et d'innovation. Donc, voilà. J'aime bien ce côté des naturalistes où, à partir de nos connaissances et des leurs, on pose un cadre qui nous semble judicieux, on observe, on mesure, on tire des conclusions et on avance comme ça, on réajuste et on avance. Voilà, c'est très, très cadré, très concret et on évite surtout de tirer des conclusions avant d'avoir essayé. Et c'est souvent le problème du monde agricole, c'est-à-dire on plante des arbres et on dit « oh là là, ça fait la concurrence et tout ça ». Mais pourquoi ça fait la concurrence? T'as testé toi? T'as essayé? Non, ben, tu tires de la conclusion d'où? Voilà. Donc ces naturalistes, ils ont accepté de nous aider à regarder la production viticole avec leurs yeux de naturaliste. Et c'est là où ça devient intéressant, ça veut dire qu'on regarde le même sujet d'un angle différent, et on met tout ça ensemble, et on construit ensemble. Point de départ, les arbres. L'agroforesterie, il fallait réintroduire les arbres dans la vigne, parce que tous les vignerons ont oublié qu'à l'origine, la vigne, c'est une liane forestière. Voilà. Et que c'est complètement cohérent de retrouver des arbres sur les vignobles, et ça se faisait encore il n'y a pas si longtemps que ça. La problématique en fait du monde agricole, c'est qu'on a adapté les cultures à la mécanisation. C'est aberrant ça, on aurait fait l'inverse en fait. Et donc on a fait des bêtises comme ça. Donc la première action, ça a été l'arbre. L'arbre est rempli de multiples fonctions, qu'elles soient au niveau du climat, qu'elles soient au niveau du relief, qu'elles soient au niveau de la production, qu'elles soient au niveau du sol. Voilà. Donc c'était notre première base, c'était redessiner le vignoble en replantant des arbres. Voilà. Et puis après, rentre en compte, en ligne de mire, ben, les chauves-souris, les oiseaux qui nous régulent les insectes. Et puis si on veut qu'ils soient nombreux, eh bien, il ne faut pas labourer, il faut semer plein de couverts végétaux, avoir une diversité d'insectes pour leur donner à manger, pour les préserver. Et puis il faut de l'eau, donc on creuse des mares. Et puis du coup, il faut préserver la végétation pour les insectes, dont les pollinisateurs. Donc on se met à ne plus faucher. Et puis du coup, ben on a plein d'insectes et des retours de flore sauvage spontanée. On se retrouve avec des orchidées. Enfin, et une action en entraîne une autre. Et puis dans les mares, et ben on se rend compte que ben non seulement ça permet d'apporter de l'eau à nos auxiliaires, mais en plus on a des nouvelles plantes. Et puis on a des nouveaux animaux. Et puis le jour où on s'est rendu compte que ça, il y avait plein de salamandres, ben on était super contents. Puis tous les ans, quand on voit une nouvelle libellule, ben on se dit que c'est super. Et puis et en fait, on se retrouve dans un cercle infernal, mais positivement infernal, en se disant que c'est jamais fini. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est-à-dire que c'est une construction permanente et que cet écosystème, ça remet aussi dans l'humilité en se disant ben, on en fait juste partie. Voilà. Et il faut accepter ça, qu'on soit un élément de cet écosystème. Et, Moi, j'adore, parce que la découverte, elle est permanente. Et en permanence, on peut se dire, mais demain, on peut encore faire une action et ce sera chouette. Voilà. Quand on a commencé à contacter les associations de naturalistes, on a commencé par 4. La LPO pour les oiseaux, le groupe Chiroptère pour les chauves-souris, Arbres et paysages en Gironde pour tout ce qui était agroforesterie, et puis l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement, pour les insectes. Ce sont les 4 premiers qu'on a réunis autour de la table pour discuter tous ensemble. Et en fait, pour la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, c'était une première que des paysans fassent appel à leur organisme pour vraiment créer un partenariat avec un but d'amélioration d'agriculture, en fait. Et donc, il a fallu aussi que se structure et réfléchisse à comment accueillir cette demande et comment accompagner justement les paysans dans leur travail. Et c'est comme ça qu'on est devenu Refuge LPO, donc refuge pour les oiseaux et la biodiversité de proximité en général, et qu'on a bénéficié d'un accompagnement plutôt sympathique parce qu'on s'est testé mutuellement. Voilà, on a fixé un peu le cadre qui maintenant sert pour d'autres aussi. Et donc, on est le premier vignoble français à avoir signé, en tant que vignoble, cette charte environnementale avec la LPO. Quand on est refuge LPO, il y a un cahier des charges à remplir. Ne pas utiliser de pesticides, mettre à disposition des abris pour les oiseaux. Donc nous, il y a quand même 50 nichoirs sur le vignoble. Il faut faire en sorte, voilà, alors c'est laisser des zones non tondues pour que les pollinisateurs puissent avoir de la nourriture. Il y a toute une liste qui est décrite, et puis on a été un peu plus loin, nous, en étant partenaire de leur centre de sauvegarde de la faune sauvage. Et ici, on accueille quand ils ont besoin des chouettes chevêches. On accueille des chouettes chevêches qui ont été soignées, qu'il faut relâcher en milieu naturel. Donc il y a tout un protocole à respecter. Donc on signe des conventions par rapport à ça. Moi, j'adore. Ça dure à peu près un mois et demi, le suivi. Ou des hérissons aussi, on a accueilli des hérissons, pareil, qui sont relâchés. Donc le soir, on doit regarder si tout va bien, s'il n'y en a pas qui traînent. Et ça, c'est super aussi. Donc on essaie de participer à notre mesure, à ce qu'on peut faire pour améliorer justement le développement de la biodiversité sauvage de proximité. Alors, quels sont les bénéfices pour la production viticole? D'abord, on a vu que la vigne ne souffre pas de toutes ces actions. Donc, c'est déjà bien directement, parce qu'on pourrait dire les pieds vont être plus petits ou plus... Non, pas du tout. Il n'y a pas de diminution de vendange, il n'y a pas de problème du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans des systèmes où on rétablit des équilibres, c'est-à-dire qu'on accompagne la production de la vigne en permettant qu'il y ait des choses qui se régulent toutes seules. Donc, on prend du temps pour mettre en place certaines actions, mais on en gagne, du coup, sur des choses qui se régulent toutes seules. Sauf qu'au bout du compte, on va quand même y gagner, puisqu'on va avoir d'autres productions, des productions de fruits, on peut avoir, quand on fait un peu de maraîchage aussi entre les rangs, ben, on a des légumes, donc on y gagne. Ce qui est intéressant, c'est que quand on jumelle le travail de Benoît avec ces actions-là, on se rend compte que d'année en année, comme on a un sol de plus en plus vivant, eh bien on a des aromatiques de plus en plus importantes dans les raisins et on a une meilleure conservation du vin. Ça veut dire qu'en plus, on y gagne au niveau du produit et que d'année en année, ça augmente ça. Et ça, c'est pas nous qui le disons. Là encore, ce sont des sommeliers, des œnologues.
Qui ont goûté tous vos millésimes.
Voilà, et qui goûtent le vin et qui disent « Oh là là, mais là, vraiment, vraiment, le Merlot, il est vraiment puissant et tout. » Et c'est eux qui disent « Mais ça, c'est directement lié à votre façon de travailler et à la richesse du sol. » Moi, je le sens aussi sur les vins. Moi, j'aime beaucoup les vins fruités. Je trouve que d'année en année, je me dis « Oh là là, il est encore meilleur que l'année dernière, le vin. » Et ça, c'est boostant aussi de se dire qu'on avance petit à petit, et que ça nous permet aussi d'améliorer la vinification de nos vins. C'est quand même chouette de se dire que... j'imagine que ça aura une limite à un moment donné, ou peut-être qu'on imaginera d'autres vins, je ne sais pas. on se laisse ouvert, mais c'est boostant quand même de se dire que c'est un réel intérêt pour le produit fini. On a quand même eu la chance d'avoir notre... alors c'est le millésime 2015 qui se retrouvait sur une carte de printemps de Monsieur Ducasse quand même au château de Versailles. C'était pas une belle reconnaissance ça pour un Bordeaux sup, c'est quand même chouette. Donc ça veut dire que ça tient la route. Ça tient la route, voilà. Souvent, ce qu'on nous dit, mais c'est plein de bon sens tout ça. Pourquoi tout le monde ne fait pas comme ça ? Ben ouais, c'est plein de bon sens. Ben, parce que d'une, on a dépossédé les paysans de leur bon sens en les enfermant dans des programmes de traitement aux pesticides et tout ce qu'on veut. En leur disant aussi que sans les techniciens, ben, ils ne savent pas faire. Mais il ne faut pas croire, en fait, un paysan, ça traite très bien, ça connaît très bien sa terre, ça sait très bien comment agir. C'est juste que ça a oublié. Et puis, en parlant sans arrêt de concurrence, mais il faut arrêter avec ces trucs de concurrence entre plantes. Mais ça, la concurrence, c'est vraiment un mot humain, je trouve. Dans la nature, il n'y a pas de concurrence. Il y a des choses qui se complètent, qui se succèdent, et ce sont des cycles naturels normaux. Il faut arrêter avec ce truc de concurrence, quoi. Donc, on est passé d'un stade de doux rêveur, voire bisounours, qui était un peu pénible, cette image, à précurseur. C'est un peu plus confortable. Donc, j'ai la chance d'avoir un mari qui a su dire c'est pas grave, on n'écoute pas. On sait qu'on est bien conseillé. On sait que on le fait pour le bien des générations futures et pour l'agriculture de demain. Et on sait que les précurseurs sont pas toujours compris sur le moment, mais c'est pas grave, on aura pris de l'avance et on pourra témoigner et montrer justement parce qu'on aura pris cette avance là. Et dès le début, on s'est dit, bah alors comment on se positionne ? Parce qu'il n'est pas question de rentrer en conflit avec nos collègues, parce que nous, les autres vignerons, ne sont pas nos concurrents, ce sont nos collègues. Donc on s'est dit, bah nous, on va juste témoigner de ce qu'on fait et on ne va pas chercher à convaincre. Voilà, pour ne pas rentrer dans du conflit, ça prend trop d'énergie. Donc montrons, essayons d'être un lieu où ils puissent venir se rendre compte de ce qui se passe. Et soyons suffisamment observateurs et permettons aussi qu'il y ait des suivis scientifiques pour pouvoir témoigner de façon efficace avec des données pour ceux qui en auraient besoin. Le fait de s'entourer comme ça de plein de monde et de mutualiser plein de choses, on a vu que ça crée des dynamiques très positives et qu'on était très sollicités. Et on s'est dit, mais si on peut faire ça au niveau production, on doit pouvoir le faire au niveau fonctionnement dans le monde agricole. Et c'est comme ça qu'est née la Possiblerie. C'est de dire, alors, comment on peut inventer un autre modèle agricole basé sur des valeurs de bienveillance, de durable, d'écologie, de joie, d'innovation, d'expérimentation, tout ça. Et quand on a exposé ce projet, tout le monde disait, oh là là, ben, qu'est-ce que vous voulez faire là ? C'est pas possible votre truc, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et à force, on s'est dit, ben, si ça va être possible, et ça va s'appeler la Possiblerie. Et c'est comme ça qu'on a pu, donc on est 106 copropriétaires à avoir racheté une petite ferme viticole qui était vouée à être absorbée par un gros négociant, donc à disparaître. Et sur ce site, on s'est dit, ben, on va le faire vivre d'une façon un peu différente et pas que avec des activités agricoles, mais avec des gens qui vont accepter de travailler ensemble. De mutualiser leurs connaissances, leurs compétences, la com, les circuits de distribution, le soutien au quotidien. Et justement, comme on n'est pas tous du milieu agricole, on n'aura pas tous les mêmes visions et on va pouvoir s'apporter aussi par rapport à ça. Et soutenu par des propriétaires qui vont aussi avoir des connaissances et des compétences autres et qu'on pourra solliciter, qui vont être ambassadeurs de tout ça. Et on va le faire. Et on va y arriver. Et là, à l'heure actuelle, le site, il est acheté. Benoît, il a déjà repris les vignes. On a installé un brasseur, pareil, qui est dans le local, c'est-à-dire qui se pose toujours les questions en disant comment je m'approvisionne en houblon localement, comment je crée un partenariat avec le céréalier local pour avoir ce qu'il me faut, comment je vais pouvoir partager les circuits de commercialisation des vignerons qui sont déjà en place et du coup, comme ça, je ne suis pas en difficulté pour mon commerce. Et c'est chouette parce que du coup, on n'est plus tout seul. Et puis, nous, en plus de notre vin, on peut aussi proposer de la bière. Donc, on augmente l'attractivité de notre carte. Il n'y a que du positif dans tout ça. À partir du moment où on accepte de construire ensemble, de partager, de prendre des décisions par consentement, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui impose à l'autre, mais on trouve des solutions qui conviennent à tout le monde. Donc on rentre dans des principes de sociocratie, constructive, positive, innovante, mais c'est possible. C'est possible.